France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir, question sur la composition du gouvernement d'Elisabeth Borne. On sait depuis cet après-midi qui fera partie de la nouvelle équipe gouvernementale, au moins jusqu'aux législatives. Car ensuite, il y aura forcément des ajustements en fonction des résultats des élections. Élections dont le premier tour aura lieu le 12 juin, c'est-à-dire dans un peu plus de 3 semaines. Alors que pour la composition du gouvernement, il a fallu attendre pratiquement 4 semaines depuis la réélection d'Emmanuel Macron. Pourquoi autant de temps? Qui a choisi les nouveaux ministres? Quelle a été la marge de manœuvre de la nouvelle chef du gouvernement? Que disent les personnalités retenues des orientations politiques à venir? Et quid des conséquences que pourront avoir les élections? On sait que Jean-Luc Mélenchon rêve de s'installer à Matignon et que Marine Le Pen le traite de menteur. À mes côtés pour répondre à toutes vos questions, Françoise Fressos, éditorialiste au Monde, est restée. Bonsoir, rebonsoir Françoise. Mathieu Gallard nous a rejoint. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur d'études à l'Institut Ipsos, notre partenaire pour toutes les élections. Yaël Gauze, chef du service politique de France Inter, est restée avec nous. Rebonsoir Yaël.
Rebonsoir Claire, rebonsoir
alors,
à tous.
Surtout, n'hésitez pas à nous appeler, le standard attend vos appels.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour commencer, nous partons à Saint-Brieuc, retrouver Frédéric. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir, tout à fait, Saint-Brieuc, où il fait beau. Je vous salue tous et toutes.
Eh bien, ça... merci,
moi, j'ai une question assez simple, hein, d'ouverture, je pense. Monsieur Macron, quand il a été élu, il a annoncé beaucoup de changements. Changements au niveau de faire la politique, de prendre les problématiques, même de considérer les autres partis. Et moi, quand j'écoute la présentation du futur gouvernement, j'ai l'impression que ça sonne un peu creux. C'est quand même pas mal technocratique aussi, sur certains aspects, je pense notamment dans le champ écologique. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un gouvernement peut-être transitoire. Je ne sais pas, vous nous en direz plus, mais où est le changement? Voilà, c'est ça.
Question simple.
C'est la question que je me pose, mais moi, je n'en vois pas. Vous allez peut-être m'éclairer. Peut-être aussi Mme Fressos, que j'aime beaucoup, par ailleurs.
Voilà. Oh, c'est trop gentil.
Ça va, c'est votre fête, Françoise, ce soir. On va vous donner la parole pour commencer, tiens, du coup, pour répondre directement à Frédéric.
Alors, je comprends votre déception, parce que je pense que Emmanuel Macron a joué ce que je appellerais la sécurité dans une conjoncture qui est quand même assez difficile. Il a une campagne législative qui est dominée par les extrêmes, qui sont tous en train de dire il faut complètement renverser la table, changer radicalement de politique. Et donc je pense que son souci à lui, c'est de parler à sa majorité, à la majorité qu'il a eue pendant la campagne présidentielle, à sécuriser cette majorité, à montrer qu'au fond, un peu ce qu'il a joué pendant la campagne présidentielle, c'est qu'on est dans un monde extrêmement troublé. Il ne faut quand même pas qu'on oublie la guerre en Ukraine. Il ne faut pas qu'on oublie non plus toute cette conjoncture économique qui est en train de noircir à vue d'œil, où on voit que les perspectives de croissance peuvent se transformer en récession, que les prix d'énergie sont en train d'exploser. Et donc, je pense qu'il essaye de sécuriser en disant, bon voilà, j'ai un gouvernement qui sait faire, et il essaye en même temps de tenir ses promesses, à la fois sur l'écologie, mais avec un trio féminin emmené par Elisabeth Borne, qui est effectivement assez technique, mais auquel il va demander d'avoir du résultat. Il essaye aussi de donner un signal dans l'éducation nationale pour essayer de contourner le blocage Blanquer. Et il essaye de montrer aussi qu'il tiendra peut-être plusieurs sujets, mais dont il ne parle pas aujourd'hui, parce que c'est quand même compliqué pour la campagne, notamment la réforme des retraites.
Je rejoins Françoise sur cette analyse, parce qu'en fait, il y avait la campagne, donc il a fallu dire « je serai nouveau, tout sera nouveau », discours d'investiture il y a 10 jours pour dire « c'est vraiment un nouveau mandat qui commence, tout est nouveau,
même le peuple nouveau. Hein.
Même le nouveau. Et puis on a vu des nominations qui marquaient la continuité et la sécurité, l'assurance, quand on pense déjà à Alexis Kohler qui reste son jumeau à l'Élysée et celui par lequel tout va transiter pour la suite. Et ensuite, c'est parce que les 5 ans qui viennent, on peut les séquencer en 2 temps. Il va y avoir 2 ans de réforme, c'est le temps utile pour la réforme s'il doit réformer, jusqu'aux européennes de 2024. Après les européennes de 2024, on entre dans une autre dimension qui sera la préparation de l'échéance de 2027. Emmanuel Macron est un sortant. Aujourd'hui, il ne peut pas se faire élire en 2027. Donc, sa famille politique va forcément passer par l'épreuve de la compétition pour la succession. Et ça arrivera après 2024. Donc, il y a très peu de temps utile, en fait. Si on se réfère à un quinquennat coupé en deux avec la césure de 2024, il a besoin de femmes et d'hommes de confiance qui ne lui poseront pas de problèmes politiques. Voilà, tout simplement, dans les 2 ans qui viennent.
Vous allez peut-être un petit peu vite, pardon, en besogne en nous parlant de 2024, parce qu'il y a quand même d'abord
C'est la seule élection intermédiaire qu'il y aura dans ce quinquennat.
Parce qu'il y a des législatives juste avant.
Pardon, bien sûr, oui.
Il y a David qui nous dit sur l'appli France Inter, pourquoi faire une émission sur ce thème alors que le gouvernement est provisoire et de très courte.
Vous avez raison.
Et de très courte durée. Alors Mathieu Gallard, vous qui êtes de l'Institut Ipsos, directeur des études à Ipsos, ces élections législatives, elles peuvent changer la donne ou pas?
Alors, est-ce qu'elles peuvent changer la donne sur la composition du gouvernement? C'est probable. Il y a généralement des ajustements. On l'avait vu en 2017. On l'a vu à chaque élection législative qui ont suivi de près des présidentielles. Mais c'est vrai que, surtout, il y a une certaine incertitude à ce stade. C'est certain que le scénario le plus probable, c'est celui d'une majorité absolue, encore une fois, pour la majorité présidentielle actuelle, sortante. Néanmoins, une majorité relative n'est pas impossible. Et si c'est le cas, il faudra choisir entre trouver soit un partenaire de coalition, probablement les Républicains, ou en tout cas une partie des Républicains, ou alors fonctionner sur des coalitions par projet, voilà, sur certains projets économiques, on va plutôt aller essayer de chercher la droite, sur certaines dimensions, peut-être par exemple la fin de vie, peut-être les institutions, pourquoi pas auprès de députés PS, de députés ELV, et dans ce cas-là, si c'est le cas, ça n'est pas encore acquis du tout, hein. Mais si c'est le cas, effectivement, il faudra sans doute revoir ce dispositif gouvernemental pour davantage l'adapter à la situation politique qui serait nouvelle.
Une petite question, Yaël, par rapport aux membres du gouvernement qui vont aux législatives. Oui. Est-ce qu'il y a de vraies incertitudes pour certains? Vous nous disiez tout à l'heure que Emmanuel Macron a même demandé à certains membres du gouvernement de ne pas aller aux élections. Alors, pour ne pas risquer d'être battus.
C'était le cas pour Agnès Pannier-Runacher dans le Pas-de-Calais et le cas dans le Nord pour Éric Dupond-Moretti. Ces deux-là ont été rattrapés par l'Élysée en disant non, vous n'y allez pas, parce que c'était des faits de garantie. Le RN est extrêmement implanté et très fort dans ces deux départements.
Est-ce que c'est politiquement correct de faire ça?
C'est là où on rejoint ce que disait Françoise. Il a besoin de femmes et d'hommes de confiance pour l'efficacité des deux ans qui viennent, s'il est réélu, si et seulement si, mettons le conditionnel bien sûr, si ça passe les 12 et 19 juin. Et donc il ne voulait pas se priver de ressources humaines essentielles pour lui. C'est ça l'histoire. Donc il leur a dit n'y allez pas. Par contre, ceux qui sont validés, j'en ai compté 15, avec Elisabeth Borne incluse, puisqu'elle va dans le Calvados, ces 15-là, normalement, c'est sécurisé, c'est-à-dire sur des circonscriptions où les scores du premier tour de la présidentielle et du deuxième montrent qu'a priori, ça passe pour eux.
Mathieu Gallard, vous êtes d'accord ou pas complètement?
Oui, non, mais globalement, évidemment, la plupart de ces ministres sont dans des circonscriptions qui sont extrêmement favorables. Il n'y a pas énormément de risques. Après, voilà.
Peut-être pour Justine Bénin, la MoDem
oui,
en Guadeloupe, vu les
exemple,
scores de Mélenchon et de Marine Le Pen,
peut-être
pour l'interrogation.
Que ça peut être un peu compliqué pour Clément Beaune, qui est dans une circonscription du centre de Paris, où il est quand même favori, mais pas non plus de manière prohibitive, on va dire. Donc voilà, il y a quand même quelques incertitudes. Disons que je ne parierais pas forcément sur le fait que tous ces membres du gouvernement soient élus dans un fauteuil lors de ces législatives. Il va quand même falloir surveiller tout ça.
Alors, on va évidemment reparler des législatives, mais on va poursuivre aussi sur la composition du gouvernement. On va retrouver Patrice qui est en Lorraine. Bonsoir Patrice.
Oui, bonsoir à toutes et à tous.
Vous aviez une question peut-être?
Oui, les citoyens sont de plus en plus inquiets sur l'avenir de notre environnement et de la planète. Mais la nouvelle ministre de l'écologie semble dans le droit fil d'une politique de l'environnement qui ne semble pas rompre avec les vieilles pratiques agricoles et énergétiques. Rien de mieux, pour être clair, de cette liste deux exemples concrets. En agriculture, pas plus tard que cette semaine, chez Mathieu Vidard, vous avez des scientifiques qui ont encore souligné la connivence des dirigeants avec les lobbies agricoles et semenciers. Que va-t-il advenir de cette pratique? Demain, deuxième exemple, vous avez un petit village de la Meuse, pas très connu, qui s'appelle Ligny-en-Barrois, où les associations environnementales vont se mobiliser pour dénoncer les aberrations de l'aménagement d'une ligne ferroviaire pour les déchets nucléaires en Meuse. Alors comment pouvez-vous imaginer un seul instant que la nouvelle ministre ne poursuive une politique pro-nucléaire qui phagocyte depuis des décennies des milliards d'euros au détriment d'une politique significative des énergies réellement propres? Il y a une dame sur votre plateau qui vient de dire les extrêmes. Mais cette dame ne soupçonne pas une seule seconde l'extrême perversité du dévoiement de la démocratie et des questions environnementales par l'argent dans notre département. C'est vraiment une honte.
Merci Patrice pour cette question. La dame qui a dit extrême, c'est Françoise Fressos. Ouh là là, elle va répondre, elle va réagir.
Bon, moi je pense qu'il faut juger à ce qui va se faire. C'est-à-dire que c'est le problème de l'environnement, c'est que c'est très polarisé et on a toujours des intentions en disant non, ils vont pas le faire ou pas. Moi, j'ai plutôt tendance à attendre de voir comment ils s'y prennent. C'est un sujet très compliqué, mais on sent qu'il y a une urgence qui a été prise en compte. Et pour vous citer peut-être un exemple, Jean Castex, le Premier ministre sortant, voulait léguer dans ce qui va être fait dans le nouveau gouvernement, ce qu'il appelle la loi olympique, c'est-à-dire d'essayer d'alléger les procédures pour développer au maximum les énergies renouvelables et notamment les éoliennes en mer, pour réduire les tentations de recours, les durées de recours, et faire en sorte que ces investissements absolument vitaux pour la transition écologique se fassent dans une durée beaucoup plus réduite que ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut les prendre au mot, et il faut les juger aux actes, sachant que ce sujet écologique, moi, ce qui me frappe, c'est que ça polarise. Il y a des critiques de part et d'autre. Certains disent, de toute façon, ils ne feront rien parce que c'est des techniciens, ils sont pas du tout écolos. Et eux disant, non, mais nous, on fait une écologie un peu pragmatique. Donc, attendons de voir, sans juger, sans a priori.
Yael Gauze.
Je vous réponds, là, ça tombe actuellement sur nos fils de dépêche. Matignon annonce la création d'un secrétariat général à la planification écologique. C'est ce qui manquait dans le mécano, parce qu'on se disait comment allait fonctionner ce trio de femmes dont vous parliez. Eh bien donc c'est un secrétariat qui va être chargé d'harmoniser, de faire se parler les ministères de l'environnement, des transports, du logement, de l'agriculture et de l'énergie. Tout ça piloté par un Antoine Pélion. Je découvre, je ne connaissais pas cette personne, conseiller énergie, environnement et transport du président de mai 2017 à avril 2019. C'est lui qui est nommé pour gérer cette coordination qui va être essentielle, parce que on ne peut pas avoir d'un côté l'agriculture qui fait selon ses méthodes et selon, certains diront, ses lobbies, et puis de l'autre, une écologie qui a besoin, elle, d'avancer. Donc c'est lui qui va être un peu la cheville ouvrière, sous le contrôle d'Elisabeth Borne, de cette articulation nouvelle et inédite dans un gouvernement de la Ve République.
Je rebondis juste sur ce que nous disait Patrice au Standard, à propos du nucléaire. On peut imaginer que ce n'est plus du tout un débat dans ce gouvernement, de toute façon.
C'est un gouvernement pro-nucléaire. Très, très clairement. Et Emmanuel Macron a fait campagne sur ses EPR. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Après, c'est le mix énergétique qui est en question. Il veut faire les deux en même temps. Renouvelable, accéléré avec la loi d'exception. C'est comme ça qu'on l'appelle, type Jeux Olympiques, pour accélérer les chantiers dans les deux ans qui viennent. Mais garder le nucléaire comme filière d'avenir pour Emmanuel Macron.
Mathieu Callard, non?
Sur l'environnement, alors premier point, on le sait, mais c'est vrai que si je me reporte 5 ans en arrière, dans les baromètres qu'on fait tous les mois, où on demande aux Français quelles sont leurs préoccupations, c'était tout en bas. Et vraiment, il y a eu un changement profond dans la perception par les Français de ce sujet au cours des 5 dernières années, lié à la fois effectivement au changement climatique qui vient de plus en plus perceptible. Il y a eu le choc de cette démission de Nicolas Hulot qui a vraiment eu un impact fort dans l'opinion. Après tout ça, ça n'empêche pas le fait que, effectivement, et votre auditeur l'illustrait très bien, prendre en main cet enjeu environnemental, ça peut se faire avec deux types de politiques publiques, soit une écologie qui va être vraiment de rupture, on va contraindre les entreprises, on va mettre en place des impôts qui vont un peu viser à changer les comportements, ou une écologie plus pragmatique. C'est évident que Emmanuel Macron, son électorat, ses ministres sont plutôt sur cette deuxième option, et de ce point de vue-là, on peut éventuellement le déplorer, mais en tout cas, ça n'est vraiment pas une surprise.
On part dans l'Indre à présent, retrouver Gilbert. Bonsoir Gilbert.
Oui, bonsoir.
Bienvenue sur l'antenne d'Inter. On vous écoute, il y a un peu d'écho, mais on devrait y arriver.
Bon, très bien. Mais écoutez, c'est un auditeur catastrophé qui s'adresse à vous. Parce que moi, je m'interroge sur le sens qu'il faut donner à la nomination de M. Ndiaye à l'éducation nationale. M. Ndiaye, dont personne ne conteste l'intelligence, la culture, le parcours, mais qui néanmoins a fait partie ou fait encore partie du conseil scientifique du CRAN, qui est reconnu comme un acteur important des études de race, qui a justifié les réunions en non-mixité sur des positions carrément communautaristes. Alors, est-ce qu'il s'agit de punir M. Blanquer est-ce qu'il s'agit là maintenant d'abandon de l'universalisme au profit de la valorisation des particularismes? On est loin des valeurs républicaines, et je m'interroge sur le sens de cette nomination. Nous pensons, enfin beaucoup pensent, que en matière de valeurs, le « en même temps », ça n'existe pas.
Nous, c'est qui?
La déclaration de M. Ndiaye, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais en tout cas, c'est mal parti pour tous ceux qui sont attachés à l'universalisme et à la République telle que, il faut le reconnaître, M. Blanquer l'a bien défendu.
Vous dites, Gilbert, on est loin des...
C'est qui le « nous » quand vous dites « nous pensons » Vous parlez au nom d'une organisation?
Quelques organisations laïques, absolument.
Plus précisément?
Bah écoutez, il y a le comité laïcité république, il y a vigilance lycée collège, il y a enfin le téléphone ne cesse de sonner depuis qu'on connaît le nom du ministère de l'éducation nationale. Nous sommes tous inquiets. Nous avions cru percevoir dans les dernières mesures de monsieur Macron prise de conscience de la nécessité de maintenir l'universalisme et les valeurs républicaines, et qui voyons-nous arriver au gouvernement, au ministère de l'Éducation nationale, un ministère qui est chargé de la formation des citoyens de demain, un homme qui parle de qui justifie les réunions en non-mixité, qui parle de racisme d'État. Qu'y a-t-il derrière? Est-ce qu'il y a une intention cachée? Je ne sais pas, je vous avoue que je ne comprends plus rien.
Alors, merci Gilbert d'avoir appelé le standard de France Inter. Yael Gauze va vous répondre.
Gilbert, non, je ne réponds pas.
Je voudrais qu'on entende Pape Ndiaye, parce que la passation de pouvoir vient d'avoir lieu au ministère de l'Éducation nationale avec Jean-Michel Blanquer. Et Pape Ndiaye a pris la parole après avoir rendu hommage à Samuel Paty. Et bien, il s'est tout de suite adressé à la communauté éducative. On l'écoute, ce sont des propos recueillis par Anne Ornstein.
Mes premières pensées vont vers le monde des enseignants, qui est le mien depuis toujours. À ma mère d'abord, qui fut professeure de sciences naturelles au collège, dans un collège des Hauts-de-Seine, à Bourg-la-Reine. À toutes les enseignantes et à tous les enseignants qui m'ont éduqué depuis l'école maternelle et à qui je dois tant. Je suis un pur produit de la méritocratie républicaine dont l'école est le pilier. Je suis peut-être un symbole, celui de la méritocratie, mais aussi, peut-être aussi, celui de la diversité. Je n'en tire nulle fierté, mais plutôt le sens du devoir et des responsabilités qui sont désormais les miennes. La consolidation des savoirs fondamentaux à laquelle vous avez tant contribué, cher Jean-Michel, l'égalité des chances, l'adaptation aussi nécessaire de l'école au bouleversement des économies et des sociétés, voilà des défis immenses à saisir. La prolongation, l'approfondissement des efforts entrepris, de nouvelles initiatives à penser et à imaginer, ce sont des tâches exaltantes au service de notre pays. Le dialogue avec toute la communauté éducative sera évidemment aussi un principe important. Toutes mes forces sont désormais au service de mes nouvelles fonctions, au service de la jeunesse de ce beau pays, au service de ce beau ministère, au service de la vie, au service de la France.
Voilà pour les premiers mots de Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale, au moment de la passation de pouvoir avec Jean-Michel Blanquer. Une réaction, Yael Gauze? À ce qu'il vient de dire et à ce que nous disait aussi Gilbert tout à l'heure au téléphone.
C'est la seule vraie nomination société civile de ce gouvernement, mais qui finit par être la plus politique. Et on le voit depuis 2 heures depuis cette nomination, c'est hystérique partout. Un signe, la chaîne CNews ne parle plus que de ça depuis 2 heures. C'est un bandeau permanent. Pape Ndiaye, le débat, islamo-gauchiste ou pas islamo-gauchiste. Évidemment, ultra réducteur, Pape Ndiaye le dit lui-même, produit de la méritocratie républicaine. Sa première pensée, c'est pour qui ? Pour Samuel Paty, il le dit dans sa passation de pouvoir. Mais Gilbert met le doigt sur une vraie réalité au sein de la majorité et au sein d'En Marche, c'est qu'il y a deux écoles, il y a deux approches de la laïcité qui n'arrivent pas toujours à se concilier, laïcité ouverte ou laïcité fermée, universalisme abstrait ou différentialisme concret. Emmanuel Macron lui-même a joué sur les deux tableaux durant son quinquennat, mais il y a une interview qui a fait date en décembre 2020 chez Brut, où il disait cet universalisme n'a aucun sens s'il n'y a pas la prise de conscience des discriminations et donc du ressenti de ces discriminations en France. Voilà, donc, est-ce que Pape Ndiaye sera le porte-parole des islamo-gauchistes? Je pense que si on rentre sur ce terrain-là, on fait complètement fausse route, Gilbert.
François Sauvé.
Oui, moi je pense qu'il y avait les premiers mots sont très importants où il dit je m'adresse aux enseignants. Je pense que le principal message c'était déjà de rétablir le dialogue avec la communauté éducative parce que c'était l'un des problèmes sur lequel butait Jean-Michel Blanquer qui avait très bien commencé son quinquennat et qui tout d'un coup a crispé les syndicats, crispé les enseignants, si bien qu'au fond toutes les mesures de revalorisation ou de réforme interne étaient en train d'être bloquées. Donc là il y a un signe et je pense que le signal envoyé c'est l'école doit se réformer parce qu'on a un problème d'égalité des chances, symbolisé aussi par la difficulté à reconnaître la diversité et donc je pense que c'est ça le message et effectivement moi je rentrerai pas dans les débats islamo-gauchisme ou pas, je pense pas que ce soit ça vraiment, c'est la méritocratie républicaine et comment on peut rendre l'école française plus juste en tenant compte des problèmes de diversité.
Mathieu Gallard.
Oui, c'est vrai que avec le départ de Jean-Michel Blanquer, qui a accompagné d'autres départs de personnalités qui étaient peut-être moins emblématiques, mais qui étaient un petit peu sur la même ligne, je pense à Frédéric Vidal, qui était à l'enseignement supérieur, à Sarah El Haïry aussi, qui était voilà sur une ligne un petit peu, oui, d'un républicaine extrêmement ferme, on va dire. C'est vrai que voilà, la ligne change un petit peu. Après, est-ce que Papa Ndiaye effectivement va réussir à infléchir cette ligne de manière générale? C'est pas certain. Effectivement, Yael Golds le disait. Je pense que tout ça, de façon, enfin, sa simple présence, elle va encore contribuer à polariser, même à hystériser le débat. On le voit avec effectivement
les réactions
déjà sur les réactions au bout de quelques minutes quasiment. Donc voilà. Et je tiens à le dire que dans les enquêtes d'opinion, on voit que ça n'est pas du tout un sujet extrêmement important aux yeux des Français, même d'ailleurs aux yeux des Français qui sont les plus à droite pour cet électorat. C'est des questions avant tout d'immigration, d'identité, mais voilà, toutes les questions qui sont liées au wokisme, à l'islamo-gauchisme, c'est extrêmement abstrait pour le grand public.
On repart au standard, retrouver Benoît. Bonsoir Benoît.
Bonsoir.
Bienvenue sur l'antenne de France Inter, on vous écoute
merci,
Benoît.
Merci, bonsoir à vos invités. Moi je voulais parler un petit peu de la renomination de Monsieur Dupond-Moretti à la justice, parce que je m'interroge beaucoup sur cette nomination. Monsieur Dupond-Moretti est en guerre ouverte avec l'ensemble de la magistrature française, c'est-à-dire pas seulement le syndicat de la magistrature, mais ça va même jusqu'à François Molins, ce qui est quand même très loin d'être un juge rouge au couteau entre les dents. Monsieur Dupond-Moretti va être cité à comparaître devant la Cour de justice de la République et la justice française est dans un état catastrophique. Donc cette nomination veut dire que Monsieur Macron clairement fait une croix sur la possibilité d'améliorer la justice française, puisque ça n'est pas possible de reconstruire la justice française en allant à l'encontre de la totalité des magistrats français. Donc je me demande pourquoi a-t-il fait ça ? Est-ce que ce ne serait pas un des gages demandés par M. Sarkozy pour son soutien ? Parce qu'on sait que M. Dupond-Moretti est quand même largement sarkozyste et est en position d'arrondir au moins sérieusement les angles dans les différentes casseroles judiciaires de M. Sarkozy.
Merci Benoît. Françoise Fraisseau, est-ce que Nicolas Sarkozy a quelque chose à voir là-dedans ?
Je ne pense pas parce que Emmanuel Macron est réélu président de la République. Je ne pense pas qu'il ait besoin de Nicolas Sarkozy dans les affaires actuelles. Je pense que c'est plutôt un bras de fer entre effectivement Dupond-Moretti, les magistrats et l'Élysée qui a pas envie de dire je me débarrasse de Dupond-Moretti et je donne un gage au syndicat de la magistrature et aux magistrats. Et donc il y a au fond une prise, l'opinion est prise à témoin de cette espèce de blocage qui existe entre l'exécutif et les juges, sachant qu'il y a quand même des états généraux, sachant que des moyens ont été déployés. En fait on est un peu dans le même sujet que l'éducation nationale, mais la réponse a été inverse à ce qui s'est passé avec Blanquer, c'est-à-dire que Emmanuel Macron qu'on change Blanquer pour essayer de renouer le dialogue. Et là, il assume la confrontation avec les juges en disant c'est les Français qui trancheront. De toute façon, il faut essayer de réformer cette justice et je ne serai pas aux ordres des syndicats de magistrats. C'est risqué, mais c'est la partie qu'il est en train de jouer.
Sachant qu'effectivement, il y a un énorme malaise dans la justice. On se souvient de cette tribune signée par des milliers de magistrats et de greffiers. C'était quand même quelque chose d'absolument historique. Alors, il dit qu'il a déployé des moyens.
C'est typique d'Emmanuel Macron. fond. C'est-à-dire que plus il va y avoir une meute contre l'un de ceux qu'il défend et dont il estime le travail, et plus il va y résister. Mais on l'a vu tout au long du quinquennat sur plusieurs affaires, où sur l'affaire Benalla, il a mis du temps à accepter cette erreur. Jérôme Peyrat, c'est lui qui l'investit dans Dordogne, alors qu'il y a un problème évident de condamnation qui va poser problème dans le débat public. Donc, dans ces cas-là, vous avez un Emmanuel Macron qui est prêt, presque même à provoquer, j'ai envie de dire. Juste un mot sur la justice. On oublie qu'il n'est pas le seul homme de justice dans le gouvernement. On en parle peu encore parce qu'on découvre ses profils. Charlotte Caubel est une magistrate. Elle va s'occuper de l'enfance, secrétariat d'État. Elle n'avait jamais eu de mandat électif ou gouvernemental. Elle-même ancienne vice-présidente au TJ de Bobigny. Et puis une autre magistrate qui s'appelle Isabelle Rome et qui va être en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et elle-même a tout un parcours de juge d'instruction, de juge d'application des peines. Elle aussi vient du monde de la magistrature.
Et je crois que c'est un double message. C'est-à-dire, il y a des magistrats avec lesquels on peut travailler et qui font du bon boulot, et il y a un syndicat qui nous bloque. Ce qui est risqué, hein, parce qu'effectivement, ça fait le bras de fer politique et avec toujours cette ambiguïté du monde politique face à la justice qui ne supporte pas d'être sanctionné. Mais en même temps, il y a aussi l'idée qu'au fond, si Dupond-Moretti partait, c'était reconnaître que les magistrats avaient raison, que les syndicats de magistrats, et que au fond, que l'institution n'est pas réformable. Donc, je pense qu'on est sur ce nœud-là, et je ne sais pas comment ça va se dénouer.
Une petite question, parce que je vous écoute tous les deux, tous les trois, depuis le début. C'est donc évidemment Emmanuel Macron qui a choisi les membres du gouvernement. Elisabeth Borne, elle a eu son mot à dire ou pas dans cette histoire?
La question nous est posée, par nos auditeurs, j'imagine, c'est un petit peu tôt pour répondre. J'ai envie de vous dire, c'est pas dans les pratiques d'Emmanuel Macron de laisser quand même une latitude énorme à son Premier ministre pour choisir ses femmes et ces hommes au gouvernement. Pour preuve, la semaine dernière, Aurélien Rousseau, dont on découvrira l'importance qu'il aura dans les mois qui viennent, c'est le directeur de cabinet à Matignon d'Elisabeth Borne, était nommé et choisi dès la semaine dernière, avant même de savoir qu'Elisabeth Borne serait installée à Matignon, puisqu'il était prépositionné pour s'occuper de la première ministre Catherine Vautrin, qui n'a jamais existé. Donc c'est pour vous dire à quel point tout est extrêmement cadré, encadré, surveillé, à tel point qu'on peut se demander si Matignon ne sera pas une annexe ou une extension du château.
Alors moi, je nuancerai, parce que ce que je sais sur le remaniement et même sur le choix d'Elisabeth Borne, c'est que Emmanuel Macron consulte, c'est-à-dire qu'il demande l'avis de quelques personnages de confiance et ensuite il tranche. Je pense qu'il a concerté avec Elisabeth Borne. Je pense qu'il a aussi un problème dans son quinquennat, c'est que il est réélu, mais il ne pourra pas se représenter. Donc, l'obsession qu'il a depuis qu'il est réélu, c'est de verrouiller le dispositif, de sorte de ne pas perdre le pouvoir et d'avoir au moins les deux premières années utiles pour gouverner. Donc, il assume, c'est lui qui a fait les investitures, c'est lui qui a réorganisé sa majorité, c'est lui qui nomme son premier ministre, c'est lui qui a droit de regard, évidemment, sur les ministres. Mais par exemple, le cas de Dupond-Moretti, je sais qu'il a été évoqué par la majorité. Certains responsable de la majorité disait il faut maintenir Dupond-Moretti, sinon on a l'impression de baisser la garde face au syndicat de la magistrature. Donc c'est pas uniquement la décision d'Emmanuel Macron.
Et pour répondre par rapport à Elisabeth Borne, là où elle est peut-être bien servie, où elle a agi, c'est que vous savez qu'elle est membre d'un club de ministres peu connu, mais ça joue, hein, l'aile gauche de la Macronie en rapport de force, c'est Territoires de Progrès. Et il y a dans le gouvernement Olivier Dussopt qui préside ce club, qui va s'occuper des retraites, c'est pas rien. Et puis vous avez aussi Clément Beaune qui reste aux affaires européennes. Voilà des figures très proches d'Elisabeth Borne politiquement, qui poussaient d'ailleurs même Elisabeth Borne pour Matignon, qui se trouvent eux aussi dans le cercle des hommes et des femmes importants du gouvernement.
Une question de Pierre qui est à Nantes, qui nous pose cette question. Comment peut-on être ministre et postuler pour un poste de député? Ça c'est la question de Pierre. Et moi je vais rajouter autre chose. On nous dit que les ministres vont être tenus par un devoir de réserve à partir de Yael, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine.
Lundi, ça commence.
Alors comment on est tenu par un devoir de réserve et on fait campagne en même temps pour ceux qui sont sur le terrain?
C'est pour ça qu'Elisabeth Borne fait un 20h dès ce soir pour parler de politique nationale et de ses chantiers, parce qu'après, théoriquement, l'ARCOM oblige, elle n'aura plus le droit de parler de nouveaux chantiers ou de politique publique lancée, parce que c'est la campagne des législatives.
Mais les autres, ils ont le droit d'aller sur le terrain et de...
Oui, mais pas de parler de nouvelles réformes.
Ah bon?
Non, c'est la règle. de du temps présent et du beau temps et du chaleur. Non, je plaisante.
Pour reprendre Mathieu Gallard.
Il faut justement, pour certains d'entre eux, en tout cas, qu'ils s'ancrent sur le terrain dans leur circonscription. Donc, il faut qu'ils aillent faire campagne, aller à la rencontre des habitants. Parce que, on le disait, pour la plupart, la partie est facile, mais elle n'est pas forcément gagnée d'avance. Donc, il va quand même aller faire campagne, une campagne de terrain évidemment, et quand même une campagne de terrain, ça veut aussi dire mettre en avant des enjeux qui vont être centraux lors du quinquennat. Donc voilà, effectivement, le gouvernement va plus avoir la parole dans les semaines qui viennent, mais en revanche, les ministres vont être sur le terrain.
Le début de la campagne officielle, c'est le 30 mai, Yaël. La majorité présidentielle se présente sous la bannière Ensemble. Renaissance, Horizon, Modem, Agir, c'est bien ça. Il y a eu des problèmes au niveau du dépôt des candidatures, puisque je crois que c'était ce soir 18h le délai limite, du côté de la NUP. On n'a pas enregistré la bannière NUP. Expliquez-nous ce qui s'est passé.
Alors, c'est effectivement une nomenclature qui n'a pas été discutée. La NUP reproche à Gérald Darmanin à l'intérieur, à ce moment-là, qui reconduit d'ailleurs à l'intérieur, de ne pas avoir demandé leur avis à la NUP sur la classification, c'est très précis, très technique, hein. Le soir des résultats, en préfecture, ce sera décompté par sous-formation de la NUP. Il n'y aura pas la bannière NUP, ce sera PS, EELV, Parti communiste, et puis la France insoumise. Ça, c'est la nomenclature préfecture. Mais bien évidemment, médiatiquement, les voix seront additionnées et c'est le bloc de gauche NUP qui sera comptabilisé dans les médias, mais en préfecture non, pour une raison très technique, c'est que les candidats ont été investis sous la bannière de leur propre parti d'origine et pas la bannière NUP.
Et parce que le financement n'a pas été mis en commun, contrairement à ce qui se passe dans la majorité où il y a une association de financement qui récolte les fonds, parce que les législatives,
pour tout le monde,
l'un des enjeux essentiel des législatives, c'est le financement de la vie politique pour 5 ans, et donc là la majorité unifié à une association de financement, et ensuite la somme est répartie entre les différentes formations.
C'est très technique, mais à la fin vous verrez bien les graphiques avec les blocs, même si c'est pas en préfecture comme ça, il y aura des comptabilités. Évidemment, les trois blocs de la présidentielle, hein, RN, Ensemble, majorité présidentielle et NUP, c'est ça l'enjeu. C'est une bataille à trois qui recommence cette semaine après la présidentielle.
Alors Mathieu Gallard, je reviens vers vous à propos de ces législatives. C'est vrai que dans la logique de la Ve République, c'est toujours c'est une formalité, les législatives pour donner une majorité au président. Vous sembliez dire tout à l'heure qu'il pouvait y avoir une majorité relative seulement. Est-ce que vous pourriez rentrer dans le détail de ce que disent les études d'opinion? Je ne sais pas si du côté d'Ipsos vous avez déjà fait de premiers sondages. Et quelle peut être la valeur des sondages pour un scrutin qui se passe dans 577 circonscriptions? Qu'est-ce que ça nous dit, les études qui sont faites actuellement?
On est en train de réaliser un sondage qu'on va bientôt dévoiler. Ah.
Alors, dans le journal Le Monde
Par exemple, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a une difficulté avec les sondages pour les législatives, parce que, comme on le dit, ce sont des élections dans 577 circonscriptions. Malgré tout, on sait que les législatives, il y a une dimension locale, mais il y a avant tout peut-être une dimension nationale. Comme vous le disiez, le président généralement remporte une majorité. Là, c'est un peu plus compliqué parce que effectivement, déjà, il y a l'usure du pouvoir pour Emmanuel Macron. Sa réélection a été facile, mais elle n'a pas suscité d'enthousiasme, clairement. On l'a vu justement dans les études qu'on a fait auprès de son électorat du second tour. Et puis, il y a cette dynamique en faveur de la gauche qui devrait en fait faire que beaucoup de circonscriptions, notamment urbaines, qui ont été facilement conquises par La République En Marche en 2017, vont basculer à gauche. Il y en aura beaucoup. Est-ce que ça va suffire à faire que La République En Marche, Renaissance en tout cas, perde sa majorité absolue? Voilà, ça n'est pas forcément le scénario le plus probable, mais c'est une vraie possibilité. Et d'autant plus que la campagne n'a pas encore commencé. Si la gauche, si Jean-Luc Mélenchon font une campagne extrêmement dynamique et offensive, les choses peuvent encore évoluer. Donc c'est vraiment une campagne importante et plus intéressante sans doute de ce point de vue-là que d'habitude.
Avec un vrai enjeu. François Frissos, oui.
La petite histoire, c'est de 1988, François Mitterrand qui se fait réélire et qui au fond n'a qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale, et donc ça oblige Michel Rocard à avoir des majorités de projets avec les communistes, avec les centristes, et une obligation aussi de graisser un peu la patte aux députés de l'opposition pour essayer d'avoir des voix. Donc ça peut être une hypothèse, effectivement.
Et puis vous pouvez avoir aussi une majorité relative au sein, à cause de dissensions à venir, ne supputons pas, mais avec Édouard Philippe, qui aura lui aussi son groupe parlementaire dans cette majorité. Que se passera-t-il à certains moments du quinquennat s'il faut marquer sa différence, et que les 15, 20, 30 députés horizons sont nécessaires pour faire une majorité absolue, point d'interrogation.
Et puis il y a aussi l'enjeu de savoir qui sera le premier groupe d'opposition. Ça, c'est pas un petit détail. Il y a notamment à l'Assemblée la question de la présidence de la Commission des Finances. Il y a des enjeux aussi à ce niveau-là.
Ça peut être effectivement un champ de bataille très très féroce entre la France Insoumise et le gouvernement, si c'est la première opposition qui revient à Jean-Luc Mélenchon, effectivement.
Donc ce que vous nous dites ce soir, Mathieu Gallard, et c'est vous qui avez le mot de la fin en 10 secondes, il y a un véritable enjeu.
Il y a un enjeu, et je pense qu'effectivement, ce point de vue de l'opposition est extrêmement important. Si c'est vraiment la gauche qui obtient, je ne sais pas, 150 ou plus de députés, la physionomie du quinquennat change totalement par rapport à ce qu'on a vu entre 2017 et 2022.
Merci beaucoup à tous les trois et à tous ceux qui nous ont appelés juste après les infos de 20h. Vous retrouverez Patricia Martin avec Laurence Devillers, Petite philosophie de la mer.